La semaine dernière, donc on a fini le chapitre 10. Bon, est-ce que vous avez des questions sur ce chapitre 10 ou d'autres d'avant?
Monsieur, oui. Vous avez changé le mot de passe pour demain.
Non, en fait, j'ai pas changé le mot de passe parce que j'ai pas fini. Et donc, je crois que j'ai mis en ligne les cours 1, 2, 3, 4 et peut-être 5 et 6, pas encore. Et donc, j'ai gardé un mot de passe personnel. Et puis, quand je vais finir, j'ai fini le 5 parce qu'en fait, j'ai préparé des notes. Et puis, pour publier en ligne, quand même, je vérifie un peu mieux parce qu'après, il y a des lecteurs de n'importe où qui disent que c'est pas correct, donc il faut vérifier. Alors, mais ça va venir. Pardon. Je pense que je vais en mettre deux là d'un seul coup. Et celui d'aujourd'hui peut-être, parce que j'ai bien avancé hier pour aujourd'hui. D'autres questions ? Voilà, pour le chapitre 10, voilà, on est arrivé au moment où, à la fin du chapitre 10, quand, dans la voiture d'un habitant de Saint-Mauron, qui était venu là par hasard, on arrive près de la Sainte-Chapelle et on s'arrête en heurtant, en cognant l'autocar, de Fédor. Et les voilà qui s'arrêtent. Alors, c'était à la page 118. Voilà, page 118. On avait vu vos oies et vos veaux. Ça va, vous vous souvenez? Alors, bien sûr, le thème des oies et des veaux, c'est-à-dire des animaux de la ferme à la campagne, donc c'est une sorte de considération négative contre quelqu'un en disant qu'il est de la campagne, hein, qu'il vient de la campagne. Je crois qu'on le fait aussi au Japon en disant de quelqu'un que c'est une akajin, que c'est quelqu'un de la campagne, c'est pas toujours positif. Donc, et là, avec les oies et les veaux. Ça va jusqu'ici pour tout le monde? Donc, on peut reprendre au chapitre 11. Et ensuite, aujourd'hui, donc le programme d'aujourd'hui est chapitre 12-13. Alors, le chapitre 11, c'était le chapitre dans lequel Gabriel lance son invitation pour le soir. Ensuite, l'invitation est reprise ou un peu modifiée, améliorée, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement au spectacle du soir dans le cabaret Le Mont de Piété qu'il invite les touristes, mais également tout de suite, enfin cette fin d'après-midi, le dîner, etc., ils restent tous ensemble. Donc c'est une sorte de nouveau programme de la soirée, pour l'ensemble de la soirée, pour tous les touristes, plus les personnalités de la maison, de la famille de Gabriel, y compris Zazie, bien entendu. Donc c'est une programmation. Jusqu'à maintenant, on ne savait pas ce qui allait se passer jusqu'au moment du départ de Zazie et du retour de Zazie chez elle avec sa mère. Maintenant, on sait que avant cette limite, qui est une limite plutôt extérieure au livre, il y a un événement organisé comme une fête et qui donc montre une sorte de points à atteindre, et on peut imaginer que ça va être quelque chose de important, énorme, etc. D'où le commentaire de Madame tout à l'heure à propos du film. Comment ça se finit dans le film? Quelque chose qui est en effet assez incroyable. Mais bon, on y reviendra plus tard. Alors pour l'instant, Gabriel est au café, à la terrasse du café, le café des deux palais, au début du chapitre 11, c'est-à-dire tout près de la Sainte-Chapelle qu'il a visité, ou qu'il croit avoir visité, avec ses touristes. Et à la deuxième ligne, il est en train de vider sa cinquième grenadine et il pérore, péroré. Le verbe pérorer signifie parler, dans un sens particulier, plutôt dans le sens de l'emphase. Emphase, emphatique, vous connaissez ce mot. Avec emphase, c'est-à-dire avec une expression d'exagération du ton, de la voix, de l'intonation. Et cette emphase arrive en général à la limite de ce qu'on appelle en français grandiloquence. Grandiloquence, c'est un autre terme, nom ou adjectif, grandiloquent, qui est un petit peu plus exagéré encore. Alors, lorsqu'on dit d'une personne qu'elle pérore ou qu'elle s'exprime avec emphase, on est encore dans le domaine du positif. Mais lorsqu'on passe à l'expression grandiloquent, il y a un petit peu quand même d'exagération, un petit peu de surjeu, de rôle surjoué, qui a une connotation négative, une connotation parfois de prétention, quelqu'un qui est prétentieux. Là, au sens de pérorer, c'est quand même pour servir un discours. On a besoin d'une certaine expression, d'une certaine emphase pour être au service du message. Avec la grandiloquence, on dépasse le service du message, on est plutôt au service de la personne qui se fait plaisir à exagérer. Alors bien sûr, Gabriel se sent tout à fait en forme devant un public qui l'écoute et qui n'est pas son public habituel. Jusqu'à maintenant, comme vous le savez, il danse, il s'exprime plutôt avec son corps dans un cabaret et il découvre à cette occasion avec des touristes qu'il peut aussi jouer un rôle comme un acteur avec la voix, avec la parole. Et ça semble l'amuser beaucoup, l'intéresser beaucoup. On retrouve ici, alors pour la première fois, historiquement, à la troisième ligne, le mot francophonie. Le mot francophonie sera repris par la suite ou réinventé par d'autres personnes. Parce que, en fait, l'utilisation aujourd'hui du mot francophonie vient d'une assemblée d'intellectuels et de chefs d'État principalement africains, des anciennes colonies françaises, qui ont souhaité conserver l'utilisation du français au niveau international pour avoir une meilleure communication entre eux et une meilleure visibilité internationale, culturelle, économique ou autre. Et dès le début, je m'excuse, je n'ai pas vérifié la date, mais ça doit être dans les années 60, dès le début, la France a été sollicitée pour participer à la francophonie et Les responsables gouvernementaux français de cette époque ont été très prudents parce qu'ils voyaient le danger d'être critiqués de néocolonialistes. Si le mouvement de la francophonie était venu d'une intention française, d'un mouvement français, il aurait été évident que c'était une sorte de façon de récupérer les anciennes colonies par l'action culturelle. Mais il faut bien savoir donc, que historiquement, ça vient d'abord d'intellectuels, de chefs d'État, principalement africains, avec un certain nombre d'autres. Je pense que très rapidement, des pays comme l'Égypte ou le Liban, qui ont toujours été francophones au sens de « amis » de la France et de la langue française, sans avoir été colonisés. On ne peut pas dire que l'Égypte a été colonisée par Napoléon, parce que la concurrence entre la France et l'Angleterre était très forte en Égypte, et la France a plutôt été poussée dehors par les Anglais, hein, historiquement. Donc, quant au Liban, voilà, il n'a jamais été colonie française, ni envahie. Donc, ce mouvement a démarré, il existe toujours aujourd'hui, et il donne lieu à des réunions internationales qu'on appelle sommets, alors sommets en quelque sorte politiques de la francophonie avec des chefs d'État, et puis des jeux de la francophonie avec des citoyens qui jouent à des jeux sur la langue, je crois une fois tous les 4 ans, et puis un congrès aussi où il y a des représentations culturelles, donc écrivains, cinéma, différents autres arts qui s'expriment. Donc ça reste un mouvement aujourd'hui très intéressant, très positif, qui a gardé toute sa dimension culturelle sans devenir trop politique. Je crois que c'est le danger de ce genre de mouvement, ce serait de devenir trop politique, à l'instar de l'Organisation des Nations Unies, hein, ONU, qui est vraiment une organisation politique. Donc, quand cette réunion, pour la première fois, a proposé de créer une structure internationale qui s'appellerait Conseil de la francophonie, le terme francophonie a été employé, mais on ne sait pas s'il a été emprunté à Queneau, ici, dans une œuvre somme toute modeste par rapport à l'échelle internationale de la francophonie, ou bien s'il a été réinventé. C'est-à-dire, sans connaître Queneau, des intellectuels se sont dit, bon, ben, franco n'importe quoi, franco n'antoca, et phonie, ça existe, donc on peut le refaire. Alors, il faudrait voir s'il existe des études sur la création du mot francophonie, et en tout cas, il semblerait que, historiquement, d'après le dictionnaire, Queneau a été le premier à le mettre dans un livre. Et comme on a dit la semaine dernière et il y a 2 semaines, la présence du mot dans le livre est tout à fait en relation avec l'autre mot inventé avant par Queneau qui était xénophone. Xénophone qui lui-même faisait référence à xénophobe, qui est donc un mot commun. Alors ici, cette francophonie, c'est une petite assemblée de gens parmi les touristes qui comprennent un peu, plus ou moins, le français ou du français, quelques mots de français parmi les mots qui sont employés. Ça veut dire aussi que Gabriel continue de s'exprimer en français, de pérorer en français devant des touristes qui, en grande partie, ne comprennent rien ou presque rien. Ce qui veut dire que c'est son attitude, son jeu de visage, son jeu de corps, au sens du mime, qui est beaucoup plus intéressante pour les touristes que le contenu de sa parole. Bon, c'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Alors, je crois que c'est également l'époque où un mime français, qui s'appelle le mime Marceau, que tout le monde connaît, a beaucoup popularisé à travers le monde cette sorte de nouvelle expression artistique. Et dans ce sens, je crois que Gabriel imite un peu le mime Marceau, ou Queneau a voulu montrer Gabriel en mime Marceau, avec justement tout ce jeu d'expressions qui permet de communiquer à des étrangers, même si ces étrangers ne connaissent pas ou presque pas de français, et en même temps d'exprimer quelque chose de typiquement français ou francophone à travers les scènes, les scénettes que joue le mime Marceau. Alors, je vous signale dans le film Paris, je t'aime, qui est donc un ensemble de petits sketchs filmés par des réalisateurs de différents pays, il y a une séquence de quelques minutes où il y a plusieurs mimes qui jouent la vie parisienne tout près, juste derrière la tour Eiffel. Et donc c'est un petit garçon, je crois, qui rentre de l'école dans sa maison. Si vous avez vu le film, vous allez vous souvenir, parce qu'il y a deux grandes maisons normales parisiennes, genre 6-7 étages comme ça, et entre les deux, une toute petite maison coincée au fond d'un passage, et c'est là que cette famille habite. Et alors le papa et la maman s'expriment tous les deux par le mime dans la maison et éduquent leur petit garçon également par le mime. Et apparemment ça les rend très heureux, ils ont l'air très heureux, plutôt en vivant avec le mime que en vivant avec le langage. Alors je ne sais plus quel est le réalisateur de ce petit court-métrage, mais il y a un sens particulier, hein, c'est que l'utilisation de la parole est parfois une source de conflit dans les familles, dans les relations, et que l'absence de parole et le jeu des mains, des pieds, du corps ont plutôt un effet positif sur la vie de famille. Bon, il faudrait vérifier tout ça dans le détail, mais en tout cas ça me fait souvenir de cette séquence qui est tout à fait rétro. Quand on voit ce petit court-métrage, on a vraiment la sensation rétro des années 60 ou 70. Alors, quel est le contenu maintenant de ce discours de Gabriel ? Ce n'est pas la première fois, vous y êtes habitué maintenant. Gabriel fait des monologues. C'est une sorte de philosophe qui ne sait pas qu'il est philosophe. Donc Molière pourrait dire à un monsieur Jourdain fait sa philosophie sans le savoir, hein, dans ce sens. Mais le contenu de son expression, d'abord, est très poétique, lyrique, amusant, et avec des idées qui sont quand même d'une profondeur très intéressante. Alors, je vous lis son monologue. Pourquoi, qu'il disait, pourquoi qu'on ne supporterait pas la vie du moment qu'il suffit d'un rien pour vous en priver ? Un rien l'amène, un rien l'anime, un rien la mine, un rien l'emmène. Sans ça, qui supporterait les coups du sort et les humiliations d'une belle carrière, les fraudes des épiciers, les tarifs des bouchers, l'eau des laitiers, l'énervement des parents, la fureur des professeurs, les gueulements des adjudants, la turpitude des nantis, les gémissements des anéantis, le silence des espaces infinis, l'odeur des choux-fleurs ou la passivité des chevaux de bois, si l'on ne savait que la mauvaise et proliférante conduite de quelques cellules infimes, gestes, ou la trajectoire d'une balle tracée par un anonyme involontaire irresponsable, ne viendrait inopinément faire évaporer tous ces soucis dans le bleu du ciel. Moi qui vous cause, j'ai bien souvent gambergé à ces problèmes, tandis que, vêtu d'un tutu, je montre à des caves de votre espèce mes cuisses naturellement assez poilues, il faut le dire, mais professionnellement épilées. Je dois ajouter que si vous en exprimez le désir, vous pouvez assister à ce spectacle dès ce soir. Hurrah ! S'écrièrent les voyageurs de confiance. Alors, on voit bien d'abord la forme générale de ce discours, c'est-à-dire l'intention de ce discours exprimé à la fin, dans la dernière phrase. Si vous en exprimez le désir, vous pouvez assister à ce spectacle dès ce soir. Donc il s'agit de ce qu'on appelle une réclame, une publicité. Hein, et à cette époque, on utilisait plutôt le mot réclame. Une réclame, une publicité, une propagande, hein, comme vous voudrez, pour son spectacle. Alors, je crois que à cette époque encore, hein, la publicité n'était pas comme nous la connaissons aujourd'hui à la télévision, et elle ressemblait donc beaucoup plus à ce qu'on appelle la réclame, c'est-à-dire parler directement d'un produit, ici, qui est donc le spectacle de Gabriel. Mais jusqu'à cette dernière partie du discours, nous ne savons pas que c'est une réclame. En effet, dès le début, le discours commence dès le début sous la forme d'une question, d'un questionnement, c'est-à-dire quelque chose d'assez philosophique dans sa forme, se continue par une longue énumération de problèmes de la vie, on pourrait dire comme ça pour les résumer, problèmes de la vie et des causes d'insatisfaction, des causes de malheur, des causes de problèmes, de déprime, si vous voulez. Et contre tous ces problèmes dont l'énumération est infinie, c'est-à-dire la vie est très lourde à vivre, finalement, il y a quand même la possibilité de la supporter. C'est le premier verbe qui est utilisé par Gabriel. Pourquoi ? Pourquoi qu'on supporterait ? Alors, supporter, ça veut dire accepter et continuer, malgré les difficultés. Il faut faire attention ici au piège de l'anglais, puisque aujourd'hui, beaucoup de Français mélangent ou confondent les deux sens du français « supporter » et de l'anglais « to support ».« To support », ça veut dire participer, être du côté d'une équipe de sport dont on est « supporter ». En français, donc « supporter ». Et le mot « supporter » a été accepté en français depuis très longtemps comme « fan » pour la musique ou pour d'autres choses, « fan », « fanatique ». On a accepté supporter pour le sport, le football, etc. Surtout le football. Et donc, depuis très très longtemps, on dit les supporters, organisés en association de supporters. Et pendant longtemps, on n'a pas utilisé le verbe supporter dans le sens de supporter. On a continué à utiliser le verbe soutenir. Et donc, on a dit les supporters soutiennent une équipe. Et puis, récemment, je dirais depuis 10-15 ans à peu près, on a commencé à utiliser le verbe supporter dans le sens de soutenir. Ce qui fait que maintenant, on a des gens qui disent « Ah oui, je vous supporte !» Et ça veut dire « Je soutiens votre équipe, je soutiens votre action, même en politique. » Alors que le vrai sens du verbe supporter, ça veut dire « je vous accepte malgré vos défauts ». Alors c'est assez amusant de voir quelqu'un qui dit à un homme politique, par exemple, « oui, je vous supporte ». Parce que dans le sens propre, ça veut dire « bon, j'accepte d'être de votre côté, mais quand même, il y a des choses critiquables ». Alors que dans le sens, évidemment, où la personne parle, c'est « je vous soutiens complètement ». Donc voilà, il y a un petit problème avec ces deux verbes « supporter »,« soutenir ». Alors évidemment, en 1959, ou quand Queneau écrit, on n'a qu'un seul sens, et donc c'est le sens de « supporter »,« accepter », »,« malgré les problèmes, malgré les difficultés. Alors ici, il commence d'ailleurs par une forme interrogative négative, donc on appelle interro-négative, puisqu'il dit « Pourquoi qu'on supporterait pas la vie ?» Alors bien sûr, il ne dit pas le « ne », mais pourquoi qu'on ne supporterait pas ? Parce que dans le langage oral, on a fait disparaître le « ne ». Pourquoi qu'on supporterait pas la vie, du moment qu'il suffit d'un rien pour vous en priver ? Alors je crois qu'en japonais aussi, si on fait une question négative, ça a un sens un petit peu plus élaboré, un petit peu plus complexe que la question positive. Hein, donc on demande quelque chose « Arimasuka », si on demande « Arimasenka », un sens un petit peu différent, hein, je crois. Donc là c'est un peu pareil. Pourquoi qu'on supporterait pas la vie du moment qu'il suffit d'un rien pour vous en priver ? Alors l'idée c'est une sorte de paradoxe, c'est-à-dire que il suffit de très peu de choses pour que l'on perde la vie. Alors on va avoir toute une énumération hein, de raisons, mais on sait très bien, hein, un accident, une maladie, ça arrive très très vite, et on disparaît. À cause de cela, c'est-à-dire de cette fragilité essentielle de la vie, on peut l'accepter pendant qu'elle est là, malgré ses difficultés, malgré ses lourdeurs. Tout le monde n'est pas d'accord hein, avec cette idée paradoxale. Il y a des gens qui se suicident, même très jeunes, parce qu'ils n'acceptent pas justement de concevoir cette idée de la vie et il préfère au contraire céder à sa fragilité. D'autres personnes, beaucoup d'autres personnes, sont tout à fait inconscients de cela. Et on les appelle, par exemple, dans la religion catholique, on les appelle les bienheureux. Les bienheureux, ce sont les gens qui n'ont pas de conscience de la valeur de la vie du fait de sa fragilité. Et je crois que lorsqu'on devient conscient de la fragilité de la vie et qu'on veut la protéger, à ce moment-là, on n'est plus un bienheureux. On devient quelqu'un qui a une conscience et une conscience lourde. Et là, on va retrouver le domaine sartrien, le domaine sartrien de l'existentialisme, c'est-à-dire celui qui a une conscience assez lourde du poids de la vie, mais qui accepte de la continuer. Alors évidemment, cette conscience, en général, exclut l'idée d'une vie après la mort, ou de quelque chose après la mort, quelque chose comme le paradis, l'enfer, la renaissance pour les bouddhistes, par exemple. Hein, tout ça est exclu de la vie en tant que telle, parce que la mort, c'est le passage dans le néant, c'est la disparition complète. Donc là, on est vraiment du côté de l'existentialisme, et par cette question interro-négative, Gabriel met exactement en parole et en scène le questionnement sartrien ou d'autres existentialistes, si vous voulez. Et alors, dans ce sens, Gabriel produit un spectacle typiquement parisien, typiquement français et typiquement parisien, parce que ce type de questionnement appartient à ce moment-là au Paris de Saint-Germain-des-Prés, au Paris des existentialistes qui dansent le jazz dans les boîtes, comme Boris Vian par exemple. Boris Vian qui sait très bien qu'il est malade, mais qui continue à fumer et à jouer de la trompette. C'est-à-dire quelqu'un qui ne cherche pas à protéger, à allonger sa vie, mais au contraire, à la vivre pleinement dans le temps où elle peut être agréable, où elle peut lui être agréable. Bon, on pourrait citer beaucoup d'autres exemples, bien sûr, dans ce domaine. Mais pour vous dire que l'apparence un peu banale, un peu bébête de l'expression de Gabriel ne doit pas être négligée dans, justement, sa signification profonde, hein, la profondeur du sens avec son époque, avec le questionnement philosophique de son époque. Alors maintenant, on a, à la suite de cette question, une longue énumération, hein, c'est-à-dire une liste de choses qui sont proposées comme négatives et justifiant d'un éventuel refus d'accepter la vie. D'abord, ce rien, un rien l'amène, un rien l'anime, etc., avec un jeu, encore une fois, de paronomase sur les verbes. C'est-à-dire un jeu sur les sons, hein, donc amène, anime, mine, mène, jeu sur les sons, de façon à reprendre un peu comme des rimes, hein, des sortes de rimes intérieures, et puis la répétition de un rien, un rien, un rien, quatre fois. D'un point de vue stylistique également, s'appelle anaphore. Anaphore, c'est le fait de répéter la même chose au début d'un vers ou au début d'une phrase. Alors on a des choses très célèbres, hein, dans les pièces classiques, Rome, etc., etc., Rome, etc., bon, à propos de la ville de Rome, et puis il y en a beaucoup d'autres, et bien sûr, beaucoup plus populaire dans les chansons, beaucoup de chansons sont mémorisées et mémorisables par le fait même de l'anaphore. Et ensuite, amusantes, drôles, comiques, signifiantes aussi par des jeux de paronomase, des jeux de reprise des mêmes sons. Ici, je crois qu'on pourrait aussi compter le rythme, c'est-à-dire un rien la mène, 4, un rien la mime, 4, un rien la mine, 4, un rien l'emmène, 4 également. Donc on a 4, 4, 4, 4, un jeu de une sorte de quatrain de 4 syllabes, c'est-à-dire 4 fois 4. Un peu comme les voitures, hein. Aujourd'hui on utilise 4x4 pour les voitures qui ont 4 roues motrices. C'est un quatrain tout terrain. Alors, après ce petit quatrain amusant, la liste, l'énumération des lourdeurs, des problèmes de la vie. Hein, donc sans ça, ça c'est-à-dire ce rien, ce petit rien qui fait supporter la vie, qui supporterait, etc., etc. Alors on a l'impression, si vous voulez, d'une sorte de balance avec des plateaux comme ça, et sur chaque plateau, on va mettre des choses différentes, et ici on a quelque chose qui s'appelle un rien, donc c'est très très léger, hein, et puis de l'autre côté, on va avoir plein de problèmes, hein, qui vont s'accumuler, et finalement, quand même, on accepte de garder la vie. Donc c'est vraiment une sorte de paradoxe, parce que le rien semble être quand même plus lourd, plus acceptable, accepté, que l'ensemble des problèmes qui pèsent malgré tout très lourd. Alors je crois que nous en sommes tous conscients, avec différents problèmes que nous avons dans nos vies personnelles, et pourtant, pour beaucoup d'entre nous, nous souhaitons continuer, nous acceptons de continuer. C'est donc tout à fait existentiel. Alors, les coups du sort, Ça, c'est les choses négatives qui arrivent par hasard. Hein, par hasard. Donc, l'accident, la maladie, le revers de fortune, etc. Les humiliations d'une belle carrière. Là, je pense que Queneau doit connaître des personnes qui sont dans l'université, dans l'administration, et qui ont des problèmes de carrière. Ce qu'on appelle la carrière, en général, c'est dans une administration. Alors, par exemple, dans l'université, un professeur a de très très belles idées, il écrit des livres, etc. Mais il va être bloqué ou chassé ou méprisé par d'autres qui ont d'autres idées. Alors, l'université est très riche hein, de ce genre de choses, mais également toutes les administrations et certainement beaucoup d'entreprises dans lesquelles des personnes très méritantes, très qualifiées, très compétentes sont parfois empêchées d'évoluer, on dit aujourd'hui évoluer hein, dans l'entreprise, dans la carrière, à cause de choses bêtes, hein, de mauvaises relations entre des personnes en général. Donc, humiliation d'une belle carrière, les fraudes des épiciers, les tarifs des bouchers, l'eau des laitiers, je crois qu'on peut mettre ça ensemble comme des problèmes un peu prosaïques, un peu terre-à-terre, des problèmes de la vie courante. Banal hein, de la vie courante et qui sont sans doute des choses de l'époque. On a dû trouver dans les journaux de l'époque justement des scandales qui ont pu être révélés à l'occasion d'accidents, de maladies, de procès et où on a découvert que certains commerçants abusaient de leur position pour tromper les clients sur les marchandises. Alors, fraude des épiciers, ça peut être avec les impôts, ne payent pas leurs impôts. Je ne sais pas si vous avez entendu à propos de la Grèce et de l'Europe ces jours-ci. On accuse la Grèce justement de ne pas avoir une économie honnête et il semblerait qu'au moins un tiers de l'économie grecque soit une économie de fraude. C'est-à-dire de choses qui sont vendues par les magasins sans donner de ticket, c'est-à-dire sans faire de comptabilité. Alors évidemment, ensuite, les commerçants ne payent pas les impôts qu'ils devraient payer au gouvernement et toute l'économie en est complètement bloquée. C'est le problème de la Grèce depuis qu'elle est entrée dans l'euro. Alors bon, là, c'est à une autre échelle, mais je crois que c'était la même chose. Des commerçants qui encaissent l'argent sans donner de ticket, sans faire entrer cet argent dans leur comptabilité officielle. Donc ça passe directement dans la poche. C'est bien pour le commerçant, mais c'est pas bien pour la nation. Les tarifs des bouchers, alors ça, c'est directement avec la clientèle. Hein, la viande est trop chère. On a eu beaucoup de choses comme ça, où on représentait dans des films, par exemple, le boucher qui appuie avec son doigt sur la balance, hein, justement, pour que ça pèse plus lourd. Ou un autre système qui permet de tout peser systématiquement plus lourd, et donc de faire payer plus cher aux clients. Là aussi, il y a eu des scandales. L'eau des laitiers, ça veut dire que des producteurs de lait ajoutaient de l'eau pour avoir plus de volume. Donc, évidemment, ils pouvaient gagner plus d'argent, mais le lait, évidemment, n'est pas très bon avec de l'eau dedans. Ensuite, on passe dans le domaine de l'éducation. L'éducation ou l'armée. Donc, on a une série de trois. L'énervement des parents, la fureur des professeurs, les gueulements des adjudants. Donc on voit que parents, professeurs, adjudants, ce sont en quelque sorte trois catégories différentes d'éducation. L'éducation par les enfants dans la famille, par les professeurs à l'école, par les adjudants dans l'armée. À cette époque, l'armée est encore une armée de conscription, c'est-à-dire que tous les jeunes gens doivent faire leur service militaire, et je crois que c'est encore 2 ans à cette époque, ou plus peut-être. Non, je crois que c'est 2 ans à cette époque. Conscription. Par la suite, la conscription a été ramenée à 1 an, et puis on réduit encore plus, et finalement a disparu pendant le deuxième septennat de Jacques Chirac, et remplacée par 3 journées d'information, et de l'autre côté, une armée tout à fait professionnelle. Donc aujourd'hui, la France a une armée professionnelle, comme beaucoup d'autres pays, et l'ensemble des jeunes Français n'ont plus de relations, n'ont plus de formation, de préparation au combat armé. Et également, puisque c'était un autre rôle du service militaire, pas de l'armée, mais du service militaire pendant longtemps, un rôle d'éducation. Parce que beaucoup de jeunes gens qui avaient quitté l'école très tôt pouvaient, en arrivant à l'âge adulte, recevoir quand même une forme d'éducation, principalement d'éducation sociale, de la vie en groupe, ce qui n'existe plus du tout aujourd'hui, ni à l'école, lycée, collège, etc., alors que, par exemple, au Japon, on continue à avoir une sorte de formation à la vie sociale dans l'enseignement scolaire. Ça n'existe presque plus en France, malheureusement je crois, hein, en partie, parce que il n'y a plus de conscience d'être un citoyen, d'être une partie dans un groupe, dans une communauté dans laquelle on doit servir à quelque chose. Bon, c'est un autre problème. Alors, ces 3 catégories d'éducation sont vues de façon négative, c'est-à-dire que les parents semblent être toujours énervés, alors que ce n'est pas toujours le cas, je crois. Les parents ne sont pas toujours énervés, mais voilà. Les professeurs semblent être toujours furieux, hein, c'est-à-dire mécontents de leurs élèves. Je ne crois pas que ce soit vrai, hein, mais c'est un défaut, une possibilité. Et enfin, les adjudants, ce sont des sous-officiers qui sont chargés directement de la formation physique, morale, à l'obéissance, etc., des soldats, beaucoup plus directement que les officiers. Les officiers commandent des groupes armés, mais les sous-officiers s'occupent de la formation des individus. Et il y a beaucoup de critiques, il y avait beaucoup de critiques contre ces sous-officiers qui seraient plutôt des brutes, des alcooliques, des gens violents, alors que les officiers sont d'un niveau supérieur, meilleure éducation, origine familiale, etc. Donc une structure de l'armée un peu comme d'anciens régimes, ancien régime, on va dire, où c'était l'aristocratie, la noblesse, qui formait le corps des officiers, et tous les autres étaient des gens du peuple. Après ce triptyque de l'éducation, on arrive à une paire qui est formée de nanti et anéanti. Alors, comme si nanti et anéanti étaient contraires l'un de l'autre, ce qui est tout à fait faux. Là encore, il y a un jeu de paronomase qui nous fait croire que nanti est d'un côté et anéanti son contraire. Mais ça n'est pas du tout le cas. Alors, nanti, ce sont ceux qui possèdent, ce sont les gens qui ont de l'argent, qui sont les riches. Nanti est un synonyme de riche. Et de l'autre côté, anéanti, eh bien, on peut en faire une sorte de contraire. Être anéanti, ça veut dire être réduit à néant, être réduit à rien, c'est-à-dire dans la situation où quelqu'un a tout perdu. Alors, perdu à cause d'un accident, à cause de la maladie, du chômage ou de je ne sais quelle raison, mais il est anéanti. Alors, il y a souvent un sens psychologique dans anéanti, un sens moral. Même quelqu'un qui est riche peut être tout à fait anéanti par une mauvaise nouvelle, par exemple. C'est-à-dire une influence morale très forte, quelle que soit la condition sociale d'une personne. Mais évidemment, on a cette paire, comme ça, qui nous est proposée. Alors, la turpitude des nantis, c'est-à-dire le comportement excessif, négatif, criminel des riches. Les riches se permettent n'importe quoi, font n'importe quoi, parce que leur richesse leur permet de payer n'importe quoi. C'est une critique qu'on fait généralement contre les riches, qui n'est pas toujours vraie, mais qui l'est quand même assez souvent, qui l'est au moins de temps en temps. On parle d'ailleurs du sentiment d'impunité des riches. L'impunité, c'est le fait de ne pas être puni, ou plutôt le sentiment de ne pas être puni si on fait quelque chose qui est normalement punissable. Alors, là où un citoyen normal sera arrêté par la police et puni et mis en prison, un riche peut estimer qu'il n'aura pas à s'inquiéter parce qu'il va téléphoner à son ami le ministre, il va payer très cher un policier, etc., etc. Donc, la corruption, l'entente entre des personnalités de haut rang provoque ce sentiment d'impunité qui, je crois, existe toujours. On a toujours cette sensation que des gens réussissent à se protéger alors que s'ils n'étaient pas les gens qu'ils sont, ils seraient punis. Alors bon, de temps en temps, il y a quand même des scandales qui sont révélés, des nantis, des riches qui sont arrêtés. Ça arrive de temps en temps, mais je crois que ça n'est pas autant qu'il le faudrait. Et ça, je crois que c'est également dans tous les pays. Il n'y a pas d'exception de ce côté-là. Les gémissements des anéantis, bon, ben là on comprend bien, les gens qui n'ont plus rien et qui gémissent, ça fait une opposition entre les deux, nantis et anéantis. Le silence des espaces infinis, c'est une sorte de considération psychologique, mais surtout philosophique, qui fait peut-être référence au philosophe Pascal, puisque c'est Pascal qui a parlé, Blaise Pascal, tout le monde le connaît, au XVIIe siècle, qui a parlé des espaces infinis. Bon, enfin, c'est devenu une banalité, alors on n'est même pas sûr que ce soit une référence. Mais en tout cas, dans les pensées de Pascal, au numéro 206, si vous avez le temps de passer, ou dans votre bibliothèque, si vous avez les pensées de Pascal, vous pouvez aller voir cette expression relative au silence des espaces infinis. Alors, qui, chez Pascal, est tout à fait religieux? Il s'agit d'une interrogation sur Dieu. Où est Dieu? On interroge le cosmos autour de nous, on lance des questions vers l'espace infini, des questions qui sont les prières, tout simplement. Les prières sont des questions en même temps que des vœux ou des souhaits ou d'autres choses, et la réponse, c'est le silence. C'est-à-dire que Dieu ne répond pas. Et alors, le croyant s'inquiète. Le croyant se pose des questions et il en arrive même à douter. C'est l'expression du doute pascalien c'est-à-dire quelqu'un qui croit en Dieu, mais qui aimerait quand même en avoir la preuve de l'existence de Dieu. Et alors, il discute philosophiquement avec lui-même en se demandant, est-ce que le croyant doit rechercher une preuve ? Et il arrive à l'idée que celui qui cherche une preuve n'est pas le croyant, c'est plutôt le penseur, le scientifique, et celui qui croit ne doit pas demander de preuve. Alors bon, Pascal est assez content avec ça, mais il est quand même, ça continue à questionner. On n'arrive pas à arrêter la machine à question, et Pascal donc décidera ce qu'on appelle le pari. C'est pas la ville de Paris, c'est le verbe parier. Le pari pascalien, c'est le pari de décider que Dieu existe. Alors, ça fait que ce n'est plus seulement une croyance, c'est aussi une décision. Je décide que Dieu existe, je parie que Dieu existe et je me mets du côté des croyants. Et alors, je me sens mieux parce que j'ai moi-même, en quelque sorte, produit ou participé à la production de l'existence de Dieu. Bon, je ne suis pas pascalien, je ne suis pas spécialiste de ce domaine, donc éventuellement je peux dire des choses qui seraient contestables, mais ça vous donne à réfléchir hein, sur ce domaine. Alors, l'introduction ici du questionnement philosophique pascalien, très très élevé, hein, les espaces infinis, le cosmos, va être évidemment en opposition totale, de la même façon que Nanti anéanti, avec l'odeur des choux-fleurs. L'odeur des choux-fleurs, c'est-à-dire les choux-fleurs, ça sent mauvais. Quand on fait cuire du chou-fleur, ça sent mauvais. C'est une chose, là encore, très prosaïque, très terre-à-terre, très vulgaire. Et évidemment, mettre d'un côté le questionnement religieux et de l'autre côté l'odeur des choux-fleurs, c'est tout à fait inégal, hein, tout à fait contrasté. Alors, l'odeur des choux-fleurs, c'est un exemple de ces banalités, et un autre exemple, ce serait par exemple la passivité des chevaux de bois. Alors, les chevaux de bois, ce sont des chevaux en bois qu'on utilise pour les manèges. Vous savez, les manèges avec des enfants qui sont très heureux de monter sur des petits chevaux de bois. Et il y a, là encore, cette sorte de paradoxe qui est le paradoxe de l'art en statue, en sculpture. C'est-à-dire que la sculpture représente parfaitement l'animal, mais inanimé. Et donc l'animal inanimé, l'animal qui ne bouge pas, qui n'est pas l'animal, qui n'a pas de vie, hein, au sens de l'anima, animation, c'est encore un paradoxe. Alors évidemment, lorsqu'on prend du bois, un morceau de bois, un arbre mort dans lequel on a fait un meuble, bon, on ne s'intéresse pas spécialement, mais si le bois est taillé en forme de quelque chose de vivant, un cheval, un lion ou autre chose, alors il y a un paradoxe, qui est le paradoxe de la sculpture, depuis que la sculpture existe, c'est-à-dire qu'on a enfermé dans la pierre, dans le bois, dans n'importe quoi, quelque chose qui a l'apparence de la vie. Et donc maintenant, des statues grecques qui ont plusieurs milliers d'années, qui donnent toujours ce mouvement, cette grâce, cette finesse, mais évidemment de gens qui sont morts depuis des milliers d'années. Donc là encore, le paradoxe est présent dans cette expression-là. On arrive à la fin, accepter, supporter tout cela, de cette liste, si on ne savait que la mauvaise et proliférante conduite de quelques cellules ou la trajectoire d'une balle tracée pouvait ou viendrait faire évaporer tous ses soucis dans le bleu du ciel. Alors tous ces soucis, c'est toute cette liste, hein, bien sûr, évaporés dans le bleu du ciel, c'est une très belle métaphore de la disparition, de la mort. Et le bleu du ciel, c'est évidemment pas aujourd'hui que nous pourrons le voir. Enfin, vous savez qu'il est là de temps en temps. C'est aussi un paradoxe, le bleu du ciel. Parce que pour tous les êtres humains, avant qu'il y ait des avions, le bleu du ciel était quelque chose qui devait exister. Mais lorsqu'on a commencé à voler en avion et qu'on a pu monter, traverser, on s'est aperçu qu'il n'existait pas. C'était l'accumulation de couches d'air avec des phénomènes optiques, de rayonnement, etc., qui donnaient cette impression de bleu, et donc qui en fait n'existe pas. Donc il y a encore un paradoxe là-dessous. Et de plus, c'est le titre d'un livre de Georges Bataille qui s'appelle « Le bleu du ciel ». Alors tout le monde connaît le nom de Georges Bataille. Georges Bataille qui n'est pas un surréaliste, mais qui est très proche des surréalistes pendant très longtemps, qui en est même plus ou moins membre quand même dans les années du début, et puis qui va prendre certaines distances, mais tout en restant ami avec beaucoup de personnalités surréalistes, dont Queneau, une amitié qui n'est pas sans problème. Hein. Ils ont eu aussi pas mal de disputes. Alors bon, cette citation d'un titre de Georges Bataille fait une sorte de petit clin d'œil, hein, à la littérature aussi. Voilà. Alors, l'ensemble de cette phrase est assez complexe du point de vue grammatical. Je n'aimerais pas avoir à vous expliquer les relations grammaticales dans cette phrase, mais je pense que vous avez compris l'essentiel, c'est-à-dire d'un côté une quantité, une accumulation de choses négatives, et de l'autre côté une petite quantité de raisons d'accepter de vivre, avec également pour exprimer ce rien, certaines des causes de ce rien, c'est-à-dire des causes de disparition, de cessation de la vie. Alors deux sont données à la fin, la mauvaise et proliférante conduite de quelques cellules infimes, avec un geste qui doit être comme ça, hein, c'est-à-dire quelque chose de minuscule, de infime, donc des cellules infimes. Alors, vous savez que Gabriel est grand et fort, hein, donc il est comme ça, et puis il dit des cellules infimes. Hein, donc là encore, il met en opposition, hein, en paradoxe, que son grand corps peut arrêter de vivre à cause de quelque chose de minuscule. Alors bon, l'idée de prolifération, hein, et de mauvaises cellules, évidemment c'est en relation avec le cancer. Le cancer dans les années 1950 commence à être étudié, à être connu. On commence à comprendre le mécanisme du cancer. Aujourd'hui, on a fait des progrès extraordinaires par rapport à cette époque. Aujourd'hui, il y a, je pense, au moins 10 fois moins de personnes qui meurent du cancer dans le temps où ils mouraient à cette époque. Donc aujourd'hui, on peut rallonger la vie de personnes qui ont certains cancers, ça dépend lesquels. D'autres cancers peuvent être soignés ou enlevés. Donc, très très grand changement de ce côté-là. Le cancer, c'est une maladie, une sorte de maladie, et de l'autre côté, la trajectoire d'une balle, évidemment, c'est l'allusion à la guerre, le fait d'aller à la guerre et de se prendre une balle dans la tête, une balle dans le cœur, qui, évidemment, tue quelqu'un tout de suite ou très rapidement. Cette balle, elle a simplement une trajectoire. Elle n'a pas une intention. C'est, je pense, là qu'on trouve l'allusion à la guerre. Parce que dans le cas d'un meurtre, d'un crime, une personne a une arme et tue une autre personne. Il y a sans doute une relation entre les deux et il y a une intention. Donc ce n'est pas seulement une trajectoire, c'est aussi une motivation. Il y a une volonté de tuer. Dans le cas de la guerre, on est à quelques dizaines ou centaines de mètres, on vise, on parle surtout de la Seconde Guerre mondiale, bien évidemment, on vise un peu n'importe comment de l'autre côté, et par hasard, on touche quelqu'un. Donc, il n'y a même pas d'intention, il y a juste une trajectoire qui arrive sur quelqu'un, et donc cette notion de trajectoire est renforcée par les mots qui suivent et qui sont, comment dire, trop nombreux, trop nombreux pour être honnête, si je puis dire, anonyme, involontaire, irresponsable. Il s'agit vraiment d'une définition du soldat, dans le sens où le soldat n'a pas la volonté de tuer personnellement une personne, mais que, par hasard, c'est lui qui tire, par hasard, c'est lui qui tue. Alors évidemment, c'est une critique de la guerre, dans le sens où elle est absurde. Alors, elle a des motivations supérieures, on va dire. Il faut lutter contre le nazisme, il faut lutter contre l'envahisseur, etc., etc. Mais, au niveau individuel, ça ne peut pas se justifier. Alors, cette forme de pensée de la guerre nécessite que l'individu ait une conscience personnelle de sa vie et de la valeur personnelle de sa vie. Là encore, on est du côté de l'existentialisme. Par exemple, pour ce qui était de la conscience des Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale et de la notion de sacrifice de l'esprit japonais, on ne peut pas du tout exprimer de cette façon-là. Et lorsqu'on lit dans les romans japonais, que ce soit Mishima ou n'importe quel autre écrivain japonais, on ne trouve pas ces expressions de conscience individuelles. Ou si on les trouve, alors c'est exceptionnel. Et ça donne lieu à une autre partie, disons, de la littérature japonaise. Donc là, cette notion de la conscience individuelle, personnelle, n'arrive pas avec l'existentialisme. Elle arrive déjà avant, mais elle va se trouver renforcée par l'existentialisme. Voilà. Alors, pardon pour le temps passé sur ce paragraphe, mais je crois que sa profondeur nécessite qu'on s'y attache, alors que beaucoup d'autres choses peuvent être passées beaucoup plus vite dans les conversations entre les personnages. On va pouvoir sauter rapidement. Alors, dernière partie de ce monologue, ce sont les trois dernières lignes de la page 119, « Moi qui vous cause », etc. Donc maintenant, cette réflexion philosophique va être située. Situé dans un individu, situé dans une situation. Ça aussi, c'est philosophiquement existentialiste, c'est-à-dire que la pensée est une pensée dans une condition humaine, pour reprendre le titre de Malraux. Il n'y a pas d'expression de pensée philosophique qui n'est pas dans une condition. Et justement, comme je parlais de la conscience japonaise, la conscience japonaise existe comme conscience japonaise dans la condition de vie japonaise, telle que la tradition, l'histoire, la société, etc., ont déterminé cette conscience japonaise. On pourrait prendre une conscience allemande, américaine, etc. Ou plus locale, plus localement aussi. Ou dans une classe sociale également. Bon, donc ici, cette conscience, elle intervient, elle arrive, elle existe dans cette condition qui est le corps de Gabriel et la façon de vivre de Gabriel et son métier, c'est-à-dire danseur, avec là encore une expression paradoxale, c'est-à-dire que cette pensée philosophique, elle arrive à un individu assez fort, assez gros, alors qu'il est en train de danser en tutu. Donc il a un petit tutu comme ça, il est devant un public principalement constitué d'homosexuels dans un cabaret homo, et pendant qu'il danse en tutu, il est en train de penser à toutes ces choses-là. Et c'est ça qui crée en même temps la beauté de la scène, de l'image, en même temps sa fragilité. On a beaucoup de mal à y croire, hein, on a du mal à y croire, à croire que c'est possible, mais en même temps c'est toute sa qualité, toute sa valeur qui s'incarne de cette façon. Vous voyez que si ces pensées philosophiques provenaient d'un certain penseur que vous reconnaissez facilement dans cette minique du penseur de Rodin, je crois que Queneau souhaite prendre une distance avec cela. Le penseur de Rodin, c'est celui qui met dans la forme de son corps, dans sa situation, le fait même de penser, de réfléchir en penseur, en philosophe, etc. Raymond Queneau nous propose le contraire de la statue de Rodin. Il nous propose le ridicule de la caricature de comment s'appelle ce peintre qui faisait des caricatures dans les cabarets, j'ai oublié son nom, un peintre qui lui met une jambe plus courte que l'autre, où est-ce que je veux dire, Lautrec, voilà, merci, Toulouse-Lautrec, voilà. Et donc mettre dans un dessin de Toulouse-Lautrec toute la profondeur philosophique qui se trouve dans la statue de Rodin. Ça, c'est ce que Queneau réussit à faire. Merci de m'aider. Voilà, et donc ça finit par la fin de la péroraison, hein, puisqu'on avait parlé de péroré, la fin de la péroraison qui est l'invitation à assister à ce spectacle ce soir. Ce qui veut dire aussi qu'il donne à ces gens qui ne comprennent pas le français, encore paradoxalement, la clé du sens de sa danse en tutu, alors que le public français francophone du cabaret ne connaît pas cette clé, ne connaît pas ce sens. Donc la plupart des gens qui le regardent d'habitude au cabaret regardent un type ridicule qui danse en tutu. Et ces gens ne pensent pas que cet individu est en train de réfléchir à la façon du penseur de Rodin. Donc vraiment ce que propose Raymond Queneau est extrêmement complexe, riche, fin, léger et superbe. En plus, c'est après le milieu du livre, ça donne vraiment le sens, hein, le poids du personnage de Gabriel dans ce monologue. Alors, dans un sens, on peut dire que Zazie comprend bien cette situation, même si elle ne comprend pas du tout les contenus. Hein. Elle exprime à la page 120 en disant « Mais dis-moi, tonton, tu fais de plus en plus recettes. » Alors, faire recette, ça veut dire réussir, avoir du succès et gagner beaucoup d'argent en même temps. Zazie est tout à fait consciente, elle voit le public, elle voit le numéro, on dit pour un artiste, le numéro d'artiste, et elle le signale. Ensuite, on parle de la traversée de la Sainte-Chapelle, soi-disant la Sainte-Chapelle, en disant qu'on a fait un 100 mètres devant les vitraux. Comme ça, geste, c'est-à-dire le geste de passer très vite, devant les vitraux. Ils sont enchantés, gestes, etc. Là-dessus arrive la veuve Mouac et Trouscaillon, qui ont enfin retrouvé leur guide qui avait été kidnappé. Et donc Madame Mouac, la veuve Mouac, continue à répéter son mot, son bon mot. Alors on s'approche, et puis il y a maintenant un paragraphe de résumé, hein, de résumé de l'action, de résumé de narration. Alors, Gabrielle répondit succinctement qu'elle était bonne, en parlant de sa santé, bien sûr. L'autre alors poursuivit, etc., etc., le problème de la liberté. Alors là, on a quelque chose qui est un peu comique, dans le sens où on parle de la santé, de la liberté, pour demander si il est libre avec les touristes, s'il n'est pas kidnappé, au sens du kidnapping. Et donc Trouscaillon, qui jusqu'à maintenant a suivi les idées de la veuve Mouac pour retrouver un homme qui avait été kidnappé, découvre que cet homme n'a jamais été kidnappé, qu'il est parti tout simplement avec des touristes, mais qu'il a été utilisé, en quelque sorte, par la veuve. Bon, c'est pas très grave. Et d'ailleurs, à ce moment-là, la relation entre la veuve et le policier commence justement à donner des petits signes d'intérêt individuel, personnel, et les deux commencent à s'intéresser l'un à l'autre. À la page 121, on voit revenir l'obsession maintenant, on peut dire l'obsession, de Zazie, c'est-à-dire l'interrogation de son oncle sur le fait d'être ou pas homosexuel. Elle veut une réponse, oui ou non. Bon, les enfants souvent reposent beaucoup de fois la même question jusqu'à ce qu'on leur réponde, et ça n'est pas très grave. Un jour, les parents répondent. Ou en attendant, ils disent « Bon, bah, tais-toi, va te coucher, va faire tes devoirs, etc. » Alors Zazie recommence une fois de plus. « Tu vas peut-être me répondre, es-tu homosexuel ou pas ?» Réponse de Gabrielle, « Je te jure que non. » C'est une réponse très claire. Si elle veut bien avoir confiance en son oncle, elle peut le croire avec cette réponse. Les réponses précédentes n'étaient pas claires. Je me souviens très bien, on a lu plusieurs fois, Gabriel répondait à une autre question, ou il répondait à côté de la question, et cette fois, il répond « Je te jure que non ». Là, c'est tout à fait clair et en face de la question. Et Gabriel étendit le bras en crachant par terre, ce qui choqua quelque peu les voyageurs. Il allait leur expliquer ce trait du folklore, écrit avec un C, bon, folklore gaulois, quand Zazie, le prévenant de ses intentions didactiques, lui demanda pourquoi, dans ce cas-là, le type l'avait accusé d'en être un. Alors on change de question, hein, c'est-à-dire, d'accord, tu n'es pas homosexuel, homo, comme vous voulez, mais alors, pourquoi le type, hein, c'était le type du matin, l'avait accusé de l'être. C'est-à-dire, qu'est-ce qui, dans l'apparence de Gabriel, dans l'attitude de Gabriel, pouvait justifier qu'on l'accuse d'être homosexuel alors qu'il ne l'était pas? Évidemment, nous pouvons répondre. C'est-à-dire que certainement, une attitude efféminée, un peu efféminée, des gestes ou quelque chose, a pu faire penser à quelqu'un que Gabriel était homosexuel. Il est également possible, ça aussi c'est entre nous, hein, lecteurs du livre, il est également possible que Gabriel soit vraiment homosexuel et qu'il ne puisse pas le dire à Zazie et qu'il lui réponde donc « je te jure que non ». C'est-à-dire, il ment, mais il ment dans l'intérêt de Zazie. Parce que Zazie n'est pas encore tout à fait assez grande, pense-t-il, pour pouvoir comprendre ce que c'est que l'homosexualité, ce que c'est que la sexualité elle-même, d'ailleurs, hein, parce que, bon, c'est pas tellement différent. Donc ça, c'est entre nous, hein, parce que à ce moment du livre, nous ne savons pas, et cette réponse de Gabriel doit être prise par nous comme une sorte de vérité. Gabriel dit qu'il n'est pas homosexuel, donc on va le croire. Mais en effet, il a pu donner l'impression de l'être à quelqu'un d'autre. Et évidemment, Gabriel n'est pas très content, donc ça recommence. J'ai mis Gabriel, qui se trouve devant une autre question pour laquelle il est difficile de répondre, là encore, à une petite fille. Pour jurer, je te jure que non. En français, le verbe jurer veut dire aujourd'hui, on va dire, c'est vraiment promettre de façon absolue. Mais, auparavant, et peut-être encore dans vos dictionnaires, je ne sais pas où ça en est, le verbe jurer signifiait dire quelque chose contre Dieu. Et donc, on disait aux enfants, son adulte d'ailleurs, il ne faut pas jurer, parce que jurer, c'est dire quelque chose contre Dieu. Et alors c'était Val-Sang-Bleu, Morvan-Dieu, enfin, des injures que vous trouvez dans des pièces de Molière, dans des romans du XVIIe ou du XVIIIe siècle, mais qui étaient toujours contre Dieu. Et alors, il ne faut pas faire ça, etc. Alors, c'est un problème complexe du rapport avec la vérité. Mais en tout cas, du point de vue des bonnes façons de s'exprimer, il fallait promettre, hein, je promets que c'est vrai, mais il ne fallait pas jurer. Jurer était mal poli et contraire à la religion. En même temps, une mauvaise pratique, une mauvaise habitude s'était développée pour montrer que la promesse a une valeur, on va jurer sur la tête de quelqu'un. Ça veut dire promettre que je dis la vérité, et si je ne dis pas la vérité, cette personne doit mourir maintenant, pour prouver. C'est ridicule, hein ? Mais on dit, par exemple, donc on peut dire, je jure sur la tête de ma mère. Alors, bien sûr, sa mère, on y tient, on ne veut pas qu'elle meure, donc on dit la vérité. Et en même temps, on invite l'autre à vérifier, hein, sur la tête de ma mère, c'est-à-dire, regarde ma mère, elle ne meurt pas. Donc, ce que je dis est vrai. Alors, sur la tête de ma mère, de mon père, de mon frère, de n'importe qui est une personne que l'on aime, bien sûr. Si on juge sur la tête de quelqu'un qu'on n'aime pas, on sait que c'est un mensonge. Parce qu'on s'en fout qu'il meure ou qu'il meure. On peut, peut-être même qu'on souhaite qu'il meure. On pourrait jurer. Pour renforcer encore cette promesse, on a également l'habitude, je ne sais pas de quand, mais ça doit être assez ancien, au moins du Moyen-Âge, de cracher par terre en même temps. Donc, je te jure, comme ça, c'est assez sale hein, comme pratique, mais c'est exactement ce qu'il fait ici. Donc, je te jure que non, et Gabriel étendit le bras en crachant par terre. Ouais, c'est ce que je viens de faire hein, pour vous montrer. Ça correspond tout à fait à la pratique, une certaine pratique française qu'il met donc dans le folklore gaulois, et qui est bien sûr choquante pour les étrangers. Vous, japonais, en tant qu'étranger, je crois que si vous voyez un couple de Français en train de discuter et un qui fait comme ça en crachant par terre, vous demandez, mais qu'est-ce qu'ils font? Vraiment, c'est sale, hein, d'abord de cracher par terre. À cette époque, en France, il n'est pas encore interdit de cracher par terre. Et quand j'étais petit garçon, donc il y a une quarantaine d'années, et que je prenais le métro avec mes parents, ou dans la ville de Paris, il y avait encore des panneaux interdits de cracher. C'est-à-dire qu'on avait déjà commencé à interdire, mais que beaucoup de gens le faisaient encore. Et donc l'interdiction était écrite partout. Alors aujourd'hui, par exemple, au Japon, ça ne se fait pas, mais en Chine, ça se fait encore. Bon, il y a une évolution comme ça dans différents pays qui n'a pas la même histoire, hein, la même vitesse. Bon. Il semblerait que ce soit une évolution générale, hein, d'aller vers plus de propreté, d'hygiène, en évitant de cracher par terre. Alors, c'est cette question à laquelle il répond non, qui entraîne une autre question à laquelle il ne sait pas comment répondre. Donc Gabriel dit, ça recommence, j'ai mis Gabriel. Comment faire? Eh bien, décision de Gabriel en bas de la page, et c'est la raison pour laquelle on peut insister dessus. Eh bien, dit-il, je t'expliquerai tout ce soir. Mieux, tu verras, mieux même, tu verras de tes propres yeux. Je verrai quoi? Tu verras, c'est promis. Zazie haussa les épaules. Les promesses, moi. Donc voilà que Zazie est invitée elle aussi. Et page 122. Tu veux que je crache encore un coup par terre? Ça suffit, tu vas postillonner dans ma glace. La glace, c'est ice cream, n'est-ce pas? T'es en train de manger. Alors maintenant, fous-moi la paix, tu verras, c'est promis. Alors ensuite, il faut expliquer à Fédor, qui passait par là. On va retrouver vers le milieu de la page, à propos des touristes, c'est maintenant avec Fédor. Hein. Il faut arranger la situation des touristes. Donc on va, reformuler la soirée avec le restaurant, ensuite le cabaret. Bon. Fédor doit s'occuper d'expliquer aux étudiants, aux touristes, et de les faire payer, hein, de leur faire payer un supplément pour la soirée. Et évidemment, Gabriel n'a pas l'intention de voler les touristes. Je crois que c'est important de le dire parce que on pourrait penser, ouais, ils vont gagner de l'argent facilement, etc. Non, je crois que Gabriel veut vraiment donner quelque chose à ces touristes qui est typiquement parisien, typiquement français et exceptionnel, que les autres touristes n'auront pas, n'auront jamais. Et donc, il fait quelque chose en tant qu'artiste. On le verra plusieurs fois justement dans cette soirée. C'est en tant qu'artiste que Gabriel propose ce qu'il propose. Voilà, on peut sauter quelques lignes ou quelques pages. À la page 123, on va proposer de jouer en sous-sol du café, en sous-sol d'un autre café, pour jouer au billard et au ping-pong. Alors, dernière ligne de la page 123, 15 billards, 20 ping-pong. P-I-M-P-O-N. Là, c'est un jeu de mots avec le ping-pong, auquel on joue encore toujours un peu partout, hein, bien sûr, et ici unique à Paris. On passe à la page 124. Maintenant, on se déplace donc de l'endroit où on était, l'île de la Cité, hein, après la visite du tribunal de commerce au lieu de la Sainte-Chapelle. On se déplace vers le nord, un petit peu plus vers le nord de Paris, un petit peu plus au nord des Halles. Alors vous connaissez tous et toutes le quartier des Halles dans Paris. Aujourd'hui c'est un centre commercial d'un côté, le centre Georges Pompidou de l'autre côté, mais auparavant, jusque dans les années 70, depuis ce que vous avez lu dans le roman de Zola, Le ventre de Paris, et la fin des Halles avec le creusement du trou des Halles et la création par la suite du centre commercial, etc. Donc, pendant un siècle à peu près, c'est le rassemblement de toutes les marchandises, enfin, d'un grand nombre de marchandises mangeables de la région parisienne, de l'Île-de-France ou même parfois de la France, pour former une sorte de grand marché, marché national et marché régional. Devant les besoins de la population de l'Île-de-France, qui a augmenté beaucoup après la Seconde Guerre mondiale, on a prévu et organisé un autre marché qui se trouve dans le sud de Paris, à l'extérieur de Paris, dans la petite commune de Rungis, R-U-N-G-I-S, qui est donc le grand marché de Rungis, qui existe toujours aujourd'hui, et donc plusieurs autoroutes arrivent de ce côté, et toujours beaucoup de camions entrent et sortent, avec un espace très très grand qui a pu être organisé uniquement dans ce but. Alors que, à l'époque de Zola, on voit effectivement se développer ce marché, déjà énorme et monstrueux, hein, dans un sens, mais après la Seconde Guerre mondiale, ça devient tout à fait impossible à gérer. Et quand même, il y a une vie de ce centre de Paris, il y a un argot, des gens qui travaillent aux Halles, qui est très important, qui existe encore aujourd'hui dans le quartier. Quand vous vous y promenez, il n'y a pas que des touristes, il y a encore des commerces et des activités qui ressemblent un peu à ceux de cette époque-là. Alors, on va, page 124, quatrième ligne, à propos du Sébasto, il s'agit du boulevard Sébastopol, qui se trouve donc au nord du quartier des Halles, en allant vers la place de la République. Et trois lignes plus bas, on ne souhaite pas que Zazie traîne dans les rues entre les Halles et le château d'eau. Les Halles et le château d'eau, là aussi c'est dans cette même direction, hein, entre le quartier des Halles et le quartier de la République. Donc c'est là que se trouve cette brasserie qui s'appelle le sphéroïde, c'est après, et ça fait référence à la brasserie du club, mais d'abord ils sont dans un autre dont je n'ai plus le nom là tout de suite. Bon, on va le retrouver. Donc ils sont au sous-sol pour jouer au billard et au ping-pong, et Zazie ne souhaite pas jouer à ça ni s'enfermer dans le sous-sol, donc elle propose de rester à l'extérieur dans la rue, et on lui dit que ça n'est peut-être pas un lieu pour une gamine, petite fille comme ça, à cette heure-là de la journée. En plus, ça veut dire que on sait que dans ce quartier il y a la possibilité de prostituées ou de clients pour des prostituées. Il y a aussi la possibilité de gens qui kidnappent des enfants. Mais ça, c'est n'importe où. Possibilité est n'importe où. Donc plutôt la possibilité de croire que cette petite fille serait une prostituée parce qu'elle se promène sur le trottoir. Alors évidemment, le trottoir, en relation avec l'expression faire le trottoir ou faire le tapin, c'est l'attitude de la prostituée qui marche sur le trottoir ou qui s'arrête devant le mur en proposant ses charmes aux gens qui passent à pied ou en voiture. Alors, je crois que ce n'est pas dans tous les quartiers de Paris que l'on pourrait croire qu'une petite fille serait prostituée parce qu'elle serait sur le trottoir, mais dans ce quartier, on peut le penser. Donc, ça veut dire qu'il est bien connu des Parisiens que dans ce quartier, il y a la possibilité de trouver des prostituées, alors que dans d'autres quartiers, ça ne serait pas le cas. Alors, oui, c'est ça, c'était à la page 123. Hein, c'est une brasserie, boulevard Turbigo, avant d'aller à Sébastopol. Au milieu de la page 123. Alors, on vous a mis une note. Hein, il existe une rue Turbigo, mais pas de boulevard. Donc, ce n'est pas très important. Alors, l'obsession de Zazie revient à la page 124, à peu près au milieu de la page. Si maintenant elle se met à te faire du charme, dit Gabriel, on aura tout vu. On a l'impression que Zazie essaye de séduire un peu Fédor. Bon. Pourquoi, demanda Zazie, c'est un homo? Tu veux dire anormal, rectifia Fédor Balanovitch. Suprême, celle-là, n'est-ce pas, tonton? Alors, Fédor est, je crois, aussi quelqu'un de très intelligent par rapport à toutes ces mœurs sexuelles d'artistes ou de gens qui vivent, qui sortent dans Paris. Comme il l'a dit, avant de faire l'autocar de jour, il faisait le by night. Et by night, on rencontre beaucoup de situations très spéciales. Et lorsqu'il entend la petite fille poser la question sur un homo, c'est un homo, évidemment au sens de homosexuel, Fédor rectifie tout de suite en disant un normal. Donc là encore, on a une paronomase avec homo normal, hein, comme s'il avait mal entendu le mot de Zazie qui aurait dit normal, hein. Et Fédor se tourne vers Gabriel en disant « Elle est bonne, hein, celle-là. Elle est bonne, cette expression-là. Suprême, celle-là, n'est-ce pas, tonton ?» Ça veut dire aussi que Zazie a identifié, a compris que ce qu'elle appelait avant homosexuel, qu'elle appelle maintenant homo, a une relation avec le fait des habitudes, disons, des habitudes de vie, des habitudes sexuelles entre des hommes et des femmes. Et si elle essaye de séduire Fédor, et on dit que Fédor n'est pas sensible à la séduction de Zazie, ça veut dire qu'il n'est pas sensible à la séduction féminine. Donc, Fédor est peut-être quelqu'un qui n'est pas sensible aux femmes, donc il est peut-être sensible aux hommes. Ça veut dire que Zazie a quand même déjà compris ce que c'est un homosexuel, malgré tout ce qu'on essaye de lui cacher. Alors donc, je répète, raison de plus pour qu'on croie que tu fais le tapin, s'exclama Gabriel épouvanté, le tapin c'est la prostituée, hein. Surtout avec tes blue jeans, il y a des amateurs. Il y a des amateurs de tout, dit Fédor Balanovitch en homme qui connaît la vie. C'est pas gentil pour moi, ça, dit Zazie en se tortillant. Alors, vous imaginez la petite fille qui dit, c'est pas gentil pour moi, ça. Hein, bon, comme si elle voulait séduire un peu Fédor. Alors, donc, Gabriel dit, si maintenant elle se met à te faire du charme, te, c'est Gabriel, elle se met à te faire du charme, on aura tout vu. C'est-à-dire, c'est incroyable que cette petite fille essaye maintenant de séduire Gabriel. Donc, une tentative de séduction, et c'est incroyable, c'est-à-dire, c'est pas possible. Donc, Fédor n'est pas sensible au charme féminin. Automatique réaction de Zazie. Pourquoi, demanda Zazie, c'est un homo? Tu veux dire un normal, etc. Donc, vous voyez comment l'évolution de la pensée de Zazie se produit dans le texte. À la page 125, Fédor va expliquer aux touristes le plan qui est proposé, et donc au milieu du texte à peu près, Fédor Balanovitch cicérona la chose en plusieurs idiomes. Vous avez une petite note dans l'édition, néologisme, hein, donc inventé par Queneau, mais sur la base de Cicérone, que l'on utilise pour un guide pour touristes, qui vient évidemment du politicien, penseur Cicéron de l'Antiquité. Je pense que pour vous, c'est Cicéron, Quiquéron. Non ? Comment on dit en japonais ? Je crois que c'est Quiquéron. Quiquéro, évidemment, avec le ro. Voilà. Et donc, on a pris le nom de cette personne pour en faire, parce qu'il était très très bon orateur, hein, il faisait des discours exceptionnels, paraît-il. Bon, voilà. Donc, c'est celui qui annonce, qui explique dans les guides touristiques. On arrive au chapitre 12 avec une ouverture tout à fait imprévue jusqu'à maintenant. C'est le début de la relation amoureuse entre Trouscaillon et la veuve Mouac. Ici, au lieu de nous donner les paroles, les dialogues entre les deux personnages, nous avons un résumé de l'action par le narrateur, un résumé qui est lui-même assez émouvant, assez poétique. Trouscaillon et la veuve Mouac avaient déjà fait un bout de chemin, lentement, côte à côte, mais droit devant eux, et de plus en plus en silence, lorsqu'ils s'aperçurent qu'ils marchaient côte à côte, lentement, mais droit devant eux, et de plus en silence. Alors ils se regardèrent et sourirent, leurs deux cœurs avaient parlé. Ils restèrent face à face en se demandant qu'est-ce qu'ils pourraient bien se dire et en quel langage l'exprimer. Alors la veuve proposa de commémorer sur le champ cette rencontre en asséchant un glace et de pénétrer à cette fin dans la salle de café du Vélocipède, boulevard Sébastopol, où quelques alliés déjà s'humectaient le tube digestif avant de charrier leurs légumes. Une table de marbre leur offrirait sa banquette de velours et ils tremperaient leurs lèvres dans leur demi-toyen en attendant que la serveuse à la chair livide s'éloigne pour laisser enfin les mots d'amour éclore à travers le bulbulement de leur bière. À l'heure où se boivent les jus de fruits aux couleurs fortes et les liqueurs fortes aux couleurs pâles, ils resteraient posés sur la susdite banquette de velours, échangeant, dans le trouble de leurs mains enlacées, des vocables prolifiques en comportement sexué dans un avenir peu lointain. « Mais, halte là !» lui répondit Trouscaillon. « Je ne puis, illico, bellicose, l'uniforme. Laissez-moi le temps de changer de frusque. » Et il lui fila un rancard pour l'apéritif à la brasserie du sphéroïde, plus haut à droite, car il habitait rue Rambuteau. Alors on voit bien l'imitation par Queneau d'une sorte de ce qu'on appelle bluette, c'est-à-dire histoire d'amour bébête entre deux personnes, en même temps tout à fait stéréotypée, cliché, hein, qu'on trouvera dans tous les mauvais romans qu'on achète à la gare pour un voyage d'une ou deux heures en train, bon, et dans lesquels deux personnages se rapprochent l'un de l'autre sans... Enfin, c'est exactement ici. Alors, Raymond Queneau s'est amusé donc, à rassembler ces clichés, ces éléments stéréotypiques, et petit à petit, il va introduire quand même son langage. Alors, au milieu de ce monologue, là, c'est 2, 4, 6, 8, 9e ligne, la veuve proposa de commémorer cette rencontre en asséchant un glace. Alors, assécher un glace, ça veut dire boire un verre. Assécher, ça veut dire vider et laisser sec c'est-à-dire on a enlevé tout le liquide, un glass, de l'anglais glass évidemment, un verre. Donc l'expression argotique, assécher un glass, qu'on retrouve deux lignes, trois lignes après, sous la forme quelques alliés déjà sumectaient le tube digestif. Alors sumecter, ça veut dire mouiller, c'est un langage un peu médical, humecter, médical ou technique. Le tube digestif, c'est-à-dire le tube qui descend lorsqu'on boit quelque chose jusqu'à l'estomac. Et donc, quand vous parlez, comme ça c'est un peu sec, parce que je parle beaucoup, bon, et à la fin il faut boire quelque chose, donc humecter le tube digestif. Autre métaphore de boire. Donc deux métaphores plutôt familières ou vulgaires, ou argotiques du verbe boire, et de l'autre côté, le verbe qui était peut-être le verbe de la veuve moite, qui disait, alors la veuve moite proposa de commémorer sur le champ. Commémorer, c'est un verbe qui est d'un assez haut niveau d'expression en français. Et donc, commémorer, c'est un haut niveau, et juste après, assécher un glace. Il y a donc comme ça un jeu entre ce qu'on appelle des niveaux de langue. Dans la même phrase, on trouve des mots de plusieurs niveaux de langue, en général un niveau assez haut, un niveau assez bas, et ça provoque, pour les lecteurs français qui connaissent bien ces niveaux de vocabulaire, ça provoque un effet comique, bien sûr. Comique de langage et comique de situation. Alors voilà, le café, c'est le Vélocipède, boulevard Sébastopol. J'ai vérifié, il existe encore, dans ce boulevard, un café qui s'appelle Vélocipède, et où il y a toujours, dans Internet, des commentaires positifs. En tant que brasserie, que brasserie tout à fait parisienne, où on sert un steak frites, un croque-monsieur, etc. Et les commentaires d'aujourd'hui, c'est que cette brasserie est bien parce qu'il y a une grande terrasse à l'extérieur, chauffée pendant l'hiver, et donc c'est bien aussi pour les fumeurs, parce que vous savez qu'avec la nouvelle loi depuis 2 ans en France, il est interdit de fumer dans tous les restaurants et cafés, dans, mais pas à l'extérieur. Donc on a un développement de terrasses dans lesquelles les gens fument, vous avez peut-être vu ça, ce qui fait que si on n'est pas fumeur, on est obligé, on n'a pas de terrasse, on n'a plus le droit à la terrasse, on est obligé d'aller directement à l'intérieur pour éviter, ça c'est aujourd'hui, c'est pas 59. Voilà. Et puis, alors, les voilà tous les deux assis sur leur banquette, avec leur demi, c'est un demi de bière, bien sûr, et que l'on invente le mot demi-toyen, en jouant sur le mot demi de bière et mitoyen, qui veut dire côte à côte. Mitoyen, c'est à côté, côte à côte. Donc c'est ce qu'on appelle un mot-valise, dans lequel on met ensemble deux mots pour en former un nouveau. Alors comme je vous disais, le mélange des niveaux de langue haut et bas, par exemple à la page 127, maintenant c'est le Trouscaillon qui s'exprime, « Je ne puis illico », c'est-à-dire « je ne puis tout de suite », bon, le mot « illico » existe depuis très longtemps, « bellicose l'uniforme ». Donc, encore un jeu de mots avec « paronomase », illico, bellico, mais c'est-à-dire, comme on a une note, on a bien compris, « because » plus « tout de suite », à cause de l'uniforme. Alors, c'est-à-dire un respect de l'uniforme, le gendarme ne va pas embrasser une dame dans la rue, il faut qu'il aille se changer. D'ailleurs, c'est le soir, il a fini son travail, il a le droit de se changer. Il lui donne un rendez-vous, donc rencard, c'est rendez-vous, à la brasserie du sphéroïde. C'est une allusion à un café qui existait, je ne sais pas s'il existe encore, qui s'appelle le café du Globe. Là, j'ai pas trouvé dans l'internet, donc il a peut-être disparu dans ce quartier. Ou alors il a changé de nom. Ça aussi, c'est possible. Voilà. Alors la veuve Mouak se trouve seule et elle s'interroge. Elle s'interroge, je fais des folies, dit-elle. C'est une question en même temps, pour elle-même. Et quelques lignes plus bas, elle se répond à elle-même, destinée à l'usage interne. Ces quatre mots provoquèrent néanmoins la réponse que voici. Qu'est-ce qui n'en fait pas ? Qu'est-ce qui, au sens de qui est-ce qui n'en fait pas ? Qui est-ce qui ne fait pas de folie ? Alors, je fais des folies et réponse de soi-même, qui est-ce qui n'en fait pas ? Avec un point d'interrogation, car la réponse était percontative. Alors, le mot percontative existe en effet, mais il n'existe que dans le vocabulaire de l'analyse grammaticale entre des spécialistes de grammaire. C'est pas vous, c'est pas moi. Même pour moi qui suis plutôt du côté littéraire, qui m'intéresse à la grammaire, bon comme ça, mais je ne suis pas un spécialiste de grammaire, ce mot-là, je l'ai entendu ou lu deux, trois fois depuis que j'étudie la langue, donc c'était assez étonnant de le trouver là. Qu'est-ce que ça veut dire percontative ? Là, voilà. Ça veut dire donc une phrase dans laquelle il y a une proposition interrogative indirecte. Par exemple, je vais aller voir cette personne pour voir si elle n'a besoin de rien. Voir si elle n'a besoin de rien. Alors, cette personne, je ne sais pas si elle a besoin de quelque chose ou pas, donc je vais aller voir. Donc, il y a une forme d'interrogation de question ouverte, je ne sais pas si elle a besoin de quelque chose ou pas, donc je vais aller voir. Je vais aller voir si elle n'a besoin de rien, avec une forme négative. Bon, c'est ce qu'on appelle vaguement percontative. Alors bien sûr, Gabriel Queneau fait exprès d'utiliser le mot percontative en sachant très bien que personne ne le connaît. En plus, en 1959, il doit y avoir deux grammairiens qui ont écrit ça dans un livre et trois professeurs d'université qui se disputent pour savoir ce que ça veut dire. Donc Queneau a cherché spécialement le mot que personne ne connaît pour le mettre ici. Alors, il y a un côté un peu cuistre, comme je vous disais l'autre jour, cuistre, c'est-à-dire le mot qu'on utilise parce que personne ne le connaît, donc en quelque sorte pour montrer aux gens qu'ils ignorent ce mot, c'est pas sympa du tout, la cuistrerie. Alors, on laisse tomber le percontatif et on revient au dialogue entre Zazie et la veuve Mouak, puisque les voilà toutes les deux par hasard sur le trottoir, entre guillemets, et elles vont toutes les deux au même endroit sans le savoir. Donc elles marchent ensemble. Zazie propose de... Bon, d'abord, elle refuse de marcher avec elle, et puis finalement, elle accepte. Et puis, à la page 128, on passe devant une épicerie, bon, où il y a des choses à voir, enfin, on peut sauter ce passage. Zazie explique que son tonton danse, et la veuve Mouak répond : il danse, cet éléphant ? Et en tutu encore, répliqua Zazie fièrement. La veuve Mouak resta couate. Couate, alors c'est le féminin de quoi, C-O-I, ça existe dans le dictionnaire. Ça veut dire, elle resta étonnée. Étonnée, la bouche ouverte. Couate. Alors Zazie refuse de marcher avec elle, et puis finalement elle accepte, on lui demande d'être compréhensive avec les grandes personnes. Le mot compréhensive est répété plusieurs fois, on pourra en reparler un peu plus loin, on aura encore l'occasion. En bas de la page 128, la veuve essaye de parler de l'amour, et il y a toujours la confusion entre le sexuel et le sentimental dans le mot français. C'est vrai qu'en anglais ou peut-être dans d'autres langues, on n'a pas cette confusion. On peut avoir des mots différents. Mais je ne sais pas, en anglais, en japonais par exemple, hein, Ai, ça donne quand même Ai no Corrida, le film, où on voit bien la confusion des deux sens. Hein, en japonais aussi, je crois. Bon. L'amour quand tu connaîtras. Je me disais bien qu'au bout du compte, vous alliez me débiter des cochonneries. Cochonneries, ça veut dire des choses avec des propos un peu sexuels, des choses sales, etc. Donc, si vous continuez, j'appelle un flic, etc. Donc la veuve moque. Elle a un intérêt pour le policier Trouscaillon, mais en même temps, c'est aussi une attirance physique et sexuelle. Hein, donc c'est tout à fait évident. Page 129, quatrième ligne, on a une note pour Utu. Avant que la mouaque eût eu le temps de répondre, Zazie avait ajouté « Tout de même, un flicard, moi ça me débecterait. » Alors débecter, ça veut dire dégoûter. C'est un sens argotique un peu, hein, débecter, dégoûter, c'est pareil. Et juste après, la veuve mouaque dit « Ça s'est trouvé comme ça. » Peut-être que si ton oncle n'avait pas été kidnappé, c'est-à-dire que la veuve mouaque était quand même assez intéressée par Gabriel. Alors elle vient de dire que c'est un éléphant, mais en même temps, elle montre qu'elle était intéressée par l'homme Gabriel, qui doit être assez beau, assez sympa quand même, hein, bien qu'il soit grand et fort. Voilà, elles arrivent devant la brasserie, elles traversent la rue en même temps et elles s'y retrouvent parce que c'est là qu'elles ont toutes les deux rendez-vous. Alors la semaine prochaine, je vous proposerai de parler rapidement du billard en bas de la page 131 parce que c'est assez amusant comme situation et je crois que cette situation du billard exprime assez bien comme image, comme métaphore, la situation d'artiste de Gabriel. Donc essayez de bien comprendre ce qui se passe en bas de la page 131 lorsque Gabriel, jouant au billard, a trois boules. Le billard à trois boules, hein, c'est pas le billard américain, c'est le billard français à trois boules. Et il veut toucher une boule sans toucher une autre. Bon, il propose F2, G3, H4, qu'est-ce que ça veut dire, hein, donc, on commencera par là la semaine prochaine. Merci.